Interview. 1. Interview.
Ok, the bird.
L'interview du jour.
Non, bouge pas toi, c'est moi qui bouge.
Ah, bon, voilà.
Alors, Marcel, vous me regardez? Hop, 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 dans la boîte. Il faut attendre.
Ah ben oui, parce que ça ressort tout.
Il faut que ça soit dans le noir. Ouais.
Ah bon?
Ah ben oui, ah ben,
on va attendre
là,
un
ça
peu.
Fait bien. Là,
ouais, ouais. Là, elle est bien.
Oui, oui.
Je vais mettre ça dessus comme ça là. Et Ninette, j'aimerais bien que vous fassiez une photo de nous deux.
Vous n'avez pas peur que je gâche tout? Ah ben moi je
allez.
Veux bien. Hein.
Allez, vous allez venir à ma place. Voilà. Et puis il faut appuyer là pour faire la photo.
Et je vois où là?
Alors c'est ça qui va être le plus difficile. C'est que le viseur il est tout petit. C'est là.
Ah.
Il faut mettre l'œil devant. Voilà. Est-ce que vous arrivez, Ninette, à voir quelque chose là dans le truc? Comme ça, si je me mets là. Peut-être Vous fermez l'autre œil, vous arrivez à voir?
Oui, oui.
Ouais.
D'un œil, oui.
À peu près?
Oui.
Ok. Allez, c'est parti. Voilà. Il faut appuyer fort. Ah, c'est dur.
Ben oui, j'arrive pas.
Hey!
C'est parce que j'ai pris d'un coup.
Eh ben, on va voir. C'est pas facile d'appuyer, il faut appuyer fort, ouais. C'est un peu dur.
Oui, mais
ouais,
bon.
Ça va.
Aujourd'hui, l'interview se déroule à l'accorderie du Diwa, rue Camille Buffardel. Et nous sommes en compagnie de Nadine Barbançon. Bonjour.
Bonjour.
Nadine Barbançon, vous êtes photographe et êtes ici donc pour une exposition que vous donnez depuis aujourd'hui, mercredi, jusqu'au 17 novembre 2023. Une exposition intitulée « Les petites combines de la vie ». Donc on va sûrement décrire un peu ces photographies donc proposées. Et pour cela, il y a aussi une écoute acoustique d'enregistrement opéré par Benoît Chaberdière, qui ont été prélevés aussi auprès de personnes âgées, qui sont effectivement le sujet de ces portraits que vous proposez en exposition. Nadine Barbançon, pour vous, qu'est-ce qui vous a inspiré sur ce travail?
Bah, disons que moi, ça fait très longtemps que je travaille sur des questions de société en tant que photographe. Et depuis plus d'une dizaine d'années, j'ai rencontré ceux qu'on appelle des personnes âgées, que moi j'ai un peu tendance à appeler les vieux parce que c'est un mot que j'aime beaucoup. Parce que dans le mot vieux, il y a d'abord le mot vie. Et quand on est vieux, c'est qu'on a eu beaucoup de vie derrière nous. Voilà. Mais donc du coup, à chaque fois, l'idée, j'ai des raisons bien personnelles d'être attentive au grand âge et à la vieillesse. Mais ce qui m'intéresse, c'est vraiment le partage, c'est-à-dire toutes les créations que je fais avec ces vieilles et ces vieux sont des projets de co-création. J'ai une petite idée au départ, mais à chaque fois quand je viens à leur rencontre, il y a toujours l'idée de faire ensemble les choses. Je n'ai pas, moi, une représentation de la vieillesse et je vais les questionner sur leur propre point de vue. Donc là, le travail s'appelle « Les petites combines de la vie ». L'idée, c'était d'interroger ces personnes qui vivent donc dans le Trièves, qui ont entre 80 et 100 ans, et qui vivent à domicile, et sur finalement c'est quoi leur stratégie, leur petite combine pour bien vieillir chez eux. Et donc on a travaillé beaucoup sur ce qu'on appelait des ateliers, hein, de partage de pratiques. Donc ils ont fait de la photographie, ils ont écouté du son, ils ont enregistré du son, on a regardé des livres d'artistes photographes, on a parlé d'images, de leurs images de famille. Et au final, voilà, l'idée c'était de construire ensemble ces images que vous voyez ici à l'accorderie sur leur petite combine de la vie.
Et pendant ces préparations, donc, agissait Benoît pour la prise de son?
Tout à fait, on a démarré en 2019, alors juste avant Covid. Hein, tout le projet s'est réalisé aussi pendant le Covid, c'était un peu complexe. Et donc au début, on intervenait à deux, et photographie et son. Et puis par la suite, après le premier confinement, j'ai été autorisée, moi, à poursuivre, mais j'ai dû continuer seule pour des raisons sanitaires. Elle ne souhaitait pas forcément qu'on soit à deux. Et donc voilà, les sons, heureusement, avaient été enregistrés pour beaucoup d'entre eux. Au départ, moi, j'ai continué à faire quelques prises de son par moi-même, mais le travail essentiel du son a été fait avant le Covid.
Ce travail sur les petites combines de la vie, donc, c'est un échange avec les personnes qui posent. Vous parliez d'ateliers préparatoires aussi pour vous documenter et inspirer aussi ces personnes pour trouver la pose adéquate.
Tout à fait. Moi, j'ai aucune notion quand je... Tout à l'heure, je disais, moi, dans mon travail, je pars toujours de ma propre ignorance. Sinon, ça ne m'intéresse pas. Si je savais déjà tout, je n'aurais pas à aller chercher quoi que ce soit. Donc, et c'est ce que je leur dis quand je les rencontre. Donc effectivement, ça part, par exemple, très simplement, un exemple, Séraphin qui est en photographie avec l'aloe vera, a 100 ans sur la photographie. Et quand je lui ai demandé, Séraphin, c'est... Quelle est votre combine pour bien vieillir chez vous? Il m'a regardé comme si j'étais stupide et il m'a dit bah, l'aloe vera, évidemment. Et donc, j'avoue que j'ai été extrêmement surprise parce que je ne m'attendais pas du tout à ce genre de réponse. Et ensuite, on a construit cette image où il tient l'aloe vera à partir d'une image à partir de laquelle lui, il avait été très ému de la voir, une photographie d'Edouard Bouba, devant laquelle il a pleuré en voyant cette image. Et donc, on a construit une image un peu similaire, très simple, un portrait en effet, avec deux tiges d'aloe vera autour de son visage. Et c'est à partir de cette photographie que ça s'est construit. Voilà. On l'a construit ensemble. Voilà. Jamais au départ, j'avais imaginé faire ce genre d'image.
Ce travail donc, était sous une égide, en quelque sorte, ou alors c'est vraiment un travail que vous avez voulu accomplir de par vous-même. Et ensuite, les exposer, c'est un autre enjeu pour vous. Il y a celui de la corderie. Est-ce que cette exposition serait visible dans d'autres lieux?
Alors, pour répondre à la question, la première question, c'est des projets que j'initie, moi. Celui-là, en tout cas, personne ne me l'a commandé. C'est moi qui l'ai voulu. Donc, je suis allée à la rencontre d'une association d'aide à domicile. C'est par eux que j'ai rencontré les personnes chez eux. D'ailleurs, une profession à partir de laquelle j'ai réalisé plus tard un reportage vraiment spécifique à ce corps de métier-là. Donc, c'est un projet que j'initie moi, avec des partenaires derrière moi que je vais chercher. Et puis après, pour répondre à la deuxième question, effectivement, l'enjeu de l'exposition est très fort, pour moi, pour sûr, mais aussi pour les personnes que j'engage dans ce projet. C'est-à-dire que ce n'est pas ma première exposition. Il y en avait une jusque la semaine dernière à Aux-sur-Cie aussi, qui s'appelle Still Living. Et l'idée, c'est vraiment d'aller jusqu'au bout quand on fait ce travail-là. Ce n'est pas juste un travail animatoire, ce n'est pas juste pour se faire plaisir un jour ou deux. On est vraiment dans le travail d'une co-création. Et donc, parfois, l'exposition Les petites combines de la vie a beaucoup tourné. Elle était à Chabeuil au Festival Photo en septembre. Elle était l'année dernière sélectionnée au mois de la photo à Grenoble. Et donc accrochée à la MC2 à Grenoble. Et elle circule dans plusieurs départements. Mais pour moi, c'est très important dès le départ qu'on se fixe cet objectif-là dès le départ. C'est-à-dire, quand on fait les choses, on sait, eux et moi, que c'est dans la perspective d'une exposition. Je voudrais ajouter quelque chose sur l'idée de l'exposition, c'est que quand les personnes qui ont participé sont venues à l'inauguration au musée du Trièves, il y a quelque chose d'extrêmement fort quand même qui se joue à ce moment-là. Moi, que j'ai perçu dans plusieurs de mes projets avec des personnes âgées, c'est qu'ils sont toujours très étonnés, très surpris de voir l'intérêt que portent les autres, entre guillemets, de manière très large, les plus jeunes qu'eux en tout cas, à ce que eux ont pu faire ou ce qu'on a pu faire ensemble, mais en tout cas la question de la vieillesse. Pour eux, c'est comme s'ils avaient intégré le fait que étant vieux, ils n'étaient pas importants ou plus personne ne s'intéressait à eux. Alors que finalement, dans le cadre des expositions, ils voyaient bien tout l'intérêt des visiteurs à l'exposition. Et ça, c'est extrêmement fort. C'est comme une forme de reconnaissance.
Ces préparatifs, comment s'opéraient-ils? Ça avait lieu à un endroit spécifique, cet atelier par exemple, et vous aviez une documentation qui permettait peut-être la réflexion de ces personnes sur le désir qu'elle souhaiterait de ce portrait.
Non, il n'y a pas de documentation spécifique, sinon des documentations autour de la photographie, par exemple, ou des banques de données de création sonore, de choses sonores. Non, il n'y avait absolument rien. Alors moi, je lis des choses depuis un certain temps sur la question de la vieillesse et j'ai une connaissance quand même assez limitée, mais de ce que c'est que vieillir à domicile, ou en tout cas de la structuration des aides à domicile, etc. Mais non, l'idée, c'est vraiment de toucher des choses très intimes et personnelles auxquelles on n'aurait jamais pensé initialement en soi. C'est pas forcément pratico-pratique. C'est pas un catalogue des bonnes combines ou des bonnes pratiques. On n'est pas du tout là-dedans. On est dans quelque chose de très poétique, de très tendre, parfois drôle. Moi, ce que je disais tout à l'heure, c'est que j'aime beaucoup à parler des choses extrêmement sérieuses, mais avec beaucoup de légèreté. Parce qu'on a tendance à s'enfermer dans des fois des propos d'expertise ou des choses très compliquées, alors que la vie est simple.
D'ailleurs, les photographies laissent transparaître justement cet amusement, ce côté amusant de ce travail. Comment se déroulaient ces séances ? Donc, elles s'effectuaient au sein des domiciles de ces personnes. Il y avait une lumière, c'était à vous de l'appréhender, de pouvoir la traduire aussi.
Oh, je pense que c'est beaucoup plus simple que ça. C'est des choses... Ça s'est jamais passé de la même manière, en fonction à chaque fois des personnes. Mais l'idée, c'est vraiment déroulé chez eux. On allait chez eux, on avait rendez-vous, voilà. Et donc, c'était nous qui amenions un peu une manière de rentrer dans un dispositif, quoi. Mais encore une fois, ce que je dis souvent, c'est que quand on parle, on se rend pas compte de la valeur de ce qu'on dit. Et quand on le réécoute et qu'on le met sur un papier, tout à coup, ça porte un autre univers. Et les pointillés de conversation qui sont écrits dans la vitrine, là, ou qui sont dans le coffret, hein, parce qu'on a édité un coffret autour de tout ce travail, sont des sortes de petites pépites qui donnent à entendre de manière extrêmement intime la vieillesse. Et puis le fait d'être chez soi en milieu rural. Ouais.
Les petites combines de la vie, ce titre était inspiré justement sur un mot d'une de ces personnes, ou alors il y avait déjà une idée préconçue ?
Non, j'ai beaucoup cherché ce titre. Et je me souvenais d'un titre de film qui s'appelle « Les petits arrangements avec les morts ». Et voilà, c'était un peu en opposition, en tout cas. Voilà. Souvent, on en parlait tout à l'heure, on parle... Enfin, en tout cas, on a une représentation de la vieillesse comme étant l'antichambre de la mort. Et souvent, les projets que j'ai pu entendre ou que je vois qui sont réalisés avec des personnes âgées, des vieux, des vieilles personnes, sont des projets qui s'adressent à eux comme étant des témoins de quelque chose qui n'existe plus. On les aide à relater un récit de vie, à témoigner de quelque chose qui a eu lieu avant. Et quelque part, moi, la question de ma mémoire m'angoisse particulièrement, et je trouve que on est les vieux ou les vieilles personnes ne sont pas que des témoins de quelque chose qui se serait passé. Ils sont aussi des gens qui vivent aujourd'hui et qui ont des choses à nous dire sur comment ils voient le monde aujourd'hui à travers le prisme de ce qu'ils ont vécu, bien entendu. C'est ça la richesse. Et moi, ce qui m'intéresse, en tout cas, c'est de me nourrir de leur point de vue à eux, en me disant c'est le point de vue de quelqu'un qui a vécu 100 ans et qu'est-ce que ça raconte. Finalement, qu'ils parlent de eux au présent et non pas au passé. Ça, c'est pour quelque chose pour moi qui est extrêmement important. Une fois, Séraphin, qui a 100 ans, m'avait demandé « Mais qu'est-ce que vous faites avec moi tout ce temps-là ? Pourquoi vous perdez votre temps avec moi ?» Et je lui avais répondu « Mais Séraphin, vous m'en faites gagner du temps. Parce que moi, j'apprends à comment je vais vieillir, comment mes parents vont vieillir, comment je vais parler avec mes enfants de ça. Voilà, ils m'apprennent beaucoup en ce sens-là, au présent. Voilà. »
Ce projet débutant en 2019 a été impacté par ce bouleversement de pandémie. Qu'est-ce que ça a provoqué chez vous dans cette démarche et est-ce que vous avez vu un avant et un après auprès de ces personnes ?
Oh bah oui, enfin très simplement, il y a un certain nombre d'entre eux qui sont décédés, donc ça il y a un avant et un après. Je crois que ça nous a obligés à une grande rupture pendant plusieurs mois sur le projet. Puis ensuite, j'ai demandé un certain nombre d'autorisations auprès des familles, des personnes elles-mêmes. Et finalement, on était dans une période tellement silencieuse, tellement retirée de tout, que le fait même que moi, je vienne chez eux, avait cette force-là que de recréer du lien avec l'extérieur aussi. Et donc, ça, peut-être que finalement, ça a permis d'aller encore plus loin que ce que j'avais pu l'imaginer. Ouais.
Je suis au tari d'Exin.
Oui, il y a longtemps qu'on n'en fait plus des photos. On a perdu l'habitude.
Ça, ça doit être mon père, mon père. Tout est fait. Oh oui. Chose. Oui, ça c'est mon père. Ça.
Ah ben. C'est Ninette ?
Ouais, c'est toi.
Avec un de mes bébés dans les bras, je ne sais pas lequel parce que j'en ai eu 6.
Oui, ben, vous savez, il y a un moment que je n'avais pas sorti. Hein. Et puis, bien souvent, il y avait les gosses, là. Et ben, on avait sorti les photos, mais ça ne les intéresse pas. Ça ne les intéresse pas.
Ben, c'est-à-dire qu'ils ne connaissent pas, et puis nous, les trois quarts du temps, on ne reconnaît pas.
Alors, eux, ils ne connaissent personne. Qu'est-ce que vous voulez faire? C'est comme ça.
C'est quelqu'un de la famille qui faisait les photos, alors?
Oui, on avait un appareil qui faisait les photos.
Et dans votre famille, qui est-ce qui aimait bien faire ça, vous vous rappelez?
Mon frère faisait des photos. Moi aussi, j'ai fait des photos.
Ah, super. Oui, on en refera ensemble.
Oui, oui, j'ai fait. Ah. Ben là, c'est doit être moi ou les parents avec les petits, vous voyez, quand ils étaient tout petits. Et là, c'est
là, moi. C'est
quand
vous, là sur la, là, comme ça, là?
Là, c'est non. Moi quand je me suis mariée, vous voyez, que mon beau-père et ma belle-mère.
C'était déjà la mode des moustaches.
Oui, peut-être. De la décrocher, si vous voulez mieux voir. Ça, c'est moi, quand avec ma petite sœur, je crois. Quand j'allais à Charles. Eh oui.
Alors, il faut bien appuyer fort. Voilà.
Super.
Ben voilà, on va voir ce que ça donne. C'est rigolo, ça. J'aime bien ces appareils que ça sort.
J'avais un pour les petits. Mais j'avais d'autres appareils, maintenant il n'y en a plus.
Plus du tout?
Plus du tout, il n'y a plus de photos. On ne prend plus de photos maintenant.
Pourquoi?
Ben, les gosses m'en donnent des photos. Là, il y a mon fils Stéphane au milieu, là.
Tu peux la prendre?
Oui.
Celle-là?
Le travail était avec Benoît Chaberdière au départ, avec ensuite cette rupture due au ce cas de force majeure. Qu'est-ce qui vous a amené à travailler avec cette personne? Il a déjà une œuvre qui vous avait parlé?
Non, Benoît Chaberdière est quelqu'un qui travaille beaucoup pour le cinéma, qui est vraiment un très grand technicien, très grand professionnel sur le travail du son, du mixage sonore. Donc c'est pour ça que je suis allée le chercher, voilà. Après, quelque part, c'était beaucoup moi le pilote de tout ce projet-là. Donc, par exemple, les pistes sonores qui sont en ligne sur Arte Radio, il y a 4 pistes sonores, sont des pistes sonores thématiques, comme une sorte de très haute couture de toutes ces voix qui racontent des toutes petites choses, des bribes de choses. Il n'y a absolument pas de grand récit, on n'est pas du tout là-dessus. Et il les a cousues les uns avec les autres par thématique, donc il y a 4 pistes sonores. Et ça a été une proposition d'écriture qu'on a imaginée ensemble. Et quelque part, le confinement m'a permis de passer plus d'un mois à dérusher tous les sons, à tout écrire. Et à partir de là, on a pu organiser cette écriture-là et lui l'a réalisée. Voilà.
En vitrine, il y a ces photographies. Et en bas, il y a ce boîtier avec un livre. Ce sont des documents... Qui sont de quel ordre?
Eh bien, c'est un coffret. Donc, le projet, il a été porté par une association qui s'appelle Tangible, qui est sur Grenoble, qui s'intéresse à la photographie particulièrement, dans le cadre de... qui propose des formations, des ateliers, workshops autour de la photographie avec plusieurs photographes, et qui porte des projets de création et d'édition. Et donc, autour de ce projet est née l'idée et la perspective d'éditer quelque chose, un support. Et donc, Tangible a édité un coffret dans lequel il y a 2 livres. Il y a un livre avec les photographies et ce qu'on appelle les petites combines qui sont en dessous, écrites par la main même des personnes. Et puis ce petit carnet de pointillés de conversation dans lequel on retrouve toutes les phrases voilà, que moi j'ai éditées, hein, que j'ai prises des enregistrements sonores et qui font comme ça une sorte de regard un peu clin d'œil très oral voilà, de ce qu'ils m'ont transmis. Et l'accès aux pistes, une carte postale avec un accès aux pistes sonores voilà, qui sont sur Arte Radio. Et donc, pardon, ce coffret est disponible à la corderie. Vous pouvez le trouver, l'acheter là.
On va parler de vous un peu, Nadine Brard-Bonson. Donc, la photographie, c'est un médium qui vous a pris très tôt.
Oh, il y a plein d'histoires d'adolescence et tout ça, mais je pense que c'est vraiment un outil qui a à la fois été, comment dire, accessible simplement pour moi. J'ai fait quelques images quand j'étais gamine et tout ça. Il y a une espèce de Madeleine de Proust. Il y a une chose que j'évoque parfois, mais après, c'est surtout des rencontres. Moi, j'ai beaucoup travaillé dans le monde du spectacle et donc où la photographie, elle avait une place pas du tout accrochée sur un mur, vraiment sous le manteau, dans le cadre de dispositifs dans l'espace urbain, des performances un peu très différentes. Et c'est seulement depuis une quinzaine d'années où je me suis rendu compte que finalement, la photographie, elle était presque un acte politique où elle posait la question des représentations qu'on a les uns des autres. Et elle est avant tout un objet. C'est pour ça qu'on parle de tangible. C'est que j'aime beaucoup les photographies qui sont sur papier, qui sont dans nos portefeuilles, qui sont dans les cadres, dans nos salons. Parce qu'elles ont une place comme un objet et non pas comme une chose pixel 0, 1, tout ça. Voilà.
Donc, vous êtes formée dans la communication audiovisuelle et puis ensuite, vous avez eu un passage à la School of Art and Design en Angleterre. Et donc, ça vous a conforté donc, dans cette profession de photographe. La photographie en tant que moyen de communication ou alors il y a aussi un aspect artistique qui s'adjoint à ça?
Ah non, je trouve que oui, la photographie, elle est vraiment, elle part du réel. Encore une fois, c'est une image du réel. Et parfois, la photographie que je peux voir, elle s'éloigne de ça. D'ailleurs, je trouve qu'elle est tellement fabriquée. Ce qui est important pour moi, c'est qu'elle part du réel, mais qu'elle crée autre chose et qu'elle raconte autre chose, qu'elle donne à entendre ou voir quelque chose qu'on ne voit pas d'un simple regard, quoi. Mais ça ne veut pas dire qu'on refabrique des images hyper compliquées avec plein de Photoshop et plein d'effets spéciaux. C'est finalement ce qui est fort, c'est la place qu'elle a dans nos histoires. En fait, dans nos histoires personnelles et dans nos histoires collectives, c'est ça qui m'intéresse. Ouais.
Votre qualification de photographe est arrivée aussi au printemps de la photographie numérique, en quelque sorte. C'était les débuts de l'image numérique. Vous en avez eu l'utilisation immédiate ou alors vous étiez encore dans l'argentique?
Bon, j'ai gardé l'argentique plutôt pour un usage personnel, mais non, après c'était vraiment des histoires de moyens aussi et de moyens financiers, quoi. Je veux dire, le numérique nous permettait tout à coup tout complètement autre chose. Non, je suis rentrée assez rapidement ouais, dans le numérique. Et puis aujourd'hui, j'ai aucune nostalgie. Je veux dire, j'ai fait des photogrammes, je continue à faire du sténopé. Ça m'intéresse de voir comment ce dispositif très simple existe depuis tant de milliers d'années. Voilà, il y a des choses qui m'intéressent dans le côté très matériel, de la lumière qui rentre dans une boîte. Mais à partir de là, je veux dire, le support numérique est... Il ne me contraint pas, voilà. Au contraire, il m'offre des possibles que je trouve très intéressants. Par contre, je ne perds pas le sens de ce que je fais avec cet outil-là. Voilà.
Quand vous prenez une photographie du réel, est-ce qu'elle vous convient dès sa vision ou alors vous êtes quand même obligé d'amener, comme le photographe argentique procédait parfois, des opérations de masquage ou d'effacement peut-être ou d'atténuation. Est-ce que pour vous c'est une transition que vous opérez aussi avec le numérique?
Quand je fais une photographie, je peux pas la regarder parce que je l'aime pas. J'ai toujours un temps, il faut que je laisse dormir mes images. J'ai beaucoup de mal avec parfois des commandes que j'ai où il faut que je réponde assez rapidement, que j'envoie rapidement. J'arrive pas à voir ce que je fais, j'ai beaucoup de mal avec ça. Donc souvent, il me faut du temps. J'apprends en vieillissant à peut-être aller plus vite, à regarder les choses, à me faire confiance. Mais j'ai beaucoup de mal ouais, à regarder mes propres images. Après, sur l'histoire du post-traitement, bon, y a toujours des petits post-traitements, mais je ne fais pas de refabrication, ou alors elles sont très explicites. Quoi. Voilà, c'est des projets qui sont volontairement et très clairement mis en scène. Pour moi, refaire une image, c'est aussi mettre en scène. C'est tout ce travail-là. J'ai eu fait des travaux vraiment de mise en scène, mais qui sont très explicites, où je ne triche pas avec ça. Quoi.
Après 1994, donc, vous avez côtoyé aussi beaucoup de compagnies, hein, que ce soit du théâtre ou alors de la poésie ou de l'écriture, de la littérature, des musiciens également. Pour vous, toutes ces rencontres ont nourri aussi votre travail ?
Forcément, oui, forcément. C'est des supports qui... Le son, par exemple, on s'est posé beaucoup de questions avec Benoît Chaberdière sur... La différence de nos supports, en fait, c'est très enrichissant, je trouve, de mélanger les formes. Alors, c'est vrai qu'on va dire que les photographes, ou là, ce qu'on appelle la photographie classique, ou dit qu'il ne faut pas mélanger du noir et blanc à la couleur, dit qu'il ne faut pas mettre des mots à côté d'une image. Enfin, voilà, il y a un certain nombre de choses qui sont des sortes de règles, mais avec lesquelles moi je joue beaucoup. J'aime à mélanger les supports, et sans doute que la rencontre avec tous ces artistes m'a enrichi de ça. En tout cas, je trouve que c'est très intéressant de réfléchir à la relation entre un texte et une image. Alors c'est sûr que c'est un travail qui est délicat, c'est un travail qui se réfléchit beaucoup, et pareil avec le son.
Il y a la vieillesse, vous avez traité également les femmes, les SDF aussi. Donc, pour vous, l'effet de société, vous avez besoin de pouvoir en témoigner par vos images.
Je ne sais pas trop, ça, je ne le dirais pas trop comme ça. Parfois, c'est les rencontres qui font que les choses se passent. Mais en tout cas, il y a une question qui me touche beaucoup. C'est encore une fois ces histoires de représentation des autres. Je trouve qu'en tant que photographe, on a une très grande responsabilité à donner à voir l'image de quelqu'un. Et que le faire sans cette personne, en tout cas sans l'avoir vraiment trouvé ensemble, m'est difficile. Peut-être ce qui m'intéresse aussi, c'est ce que malheureusement, j'ai envie de dire, on appelle les invisibles. Pour moi, personne n'est invisible, sauf dans les dessins animés. Et encore une fois, c'est bien plus nous qui sommes aveugles et qui ne voulons pas voir un certain nombre de situations, de personnes, de situations humaines, et que peut-être que le rôle de la photographie, il est aussi ça, de donner à voir ce qui n'est pas toujours vu.
Vous enseignez également la photographie aujourd'hui à l'Université de Grenoble. Pour vous, c'est important aussi, cette transmission de savoir-faire?
Alors, j'enseigne plus cette année, j'ai arrêté, mais j'ai eu beaucoup de plaisir à enseigner avec les plus jeunes. Ce qui m'intéressait, c'est d'être avec des étudiants qui ont 20 ans, de connaître ou de mieux saisir le rapport qu'ils avaient à l'image photographique. Et c'était très enrichissant pour moi, et pour eux parfois un peu, non pas perturbant, mais où on a beaucoup questionné le travail qu'on réalisait ensemble, c'était la question du point de vue, c'est-à-dire d'arriver à formuler photographiquement un point de vue sur un sujet. Et c'est là-dessus que je les conduisais sur un travail documentaire. Et vraiment d'arriver à affirmer un point de vue et de le concevoir et de le réaliser. Ça, c'était extrêmement fort pour eux. Et pour moi, encore une fois, c'est très intéressant de voir leur manière d'appréhender les images, de manière générale.
Vous-même, Nadine Barbançon, vous serez présente dans la durée de cette exposition. On pourra vous revoir ici, à Die.
Alors, pour le mois qui vient, non. Mais par contre, le 17 novembre, je vais revenir pour un temps de dédicace du coffret. Donc, bienvenue à tous ceux qui veulent nous rejoindre. Et a priori, je crois que ce sera à la médiathèque. Voilà, le 17, j'ai pas l'horaire encore, mais regardez bien vos journaux.
photographies, on peut les découvrir sur Internet également, ou votre travail?
Disons que j'ai un site internet qui s'appelle Nadine Barbançon, donc www.nadinebarbançon.com, Barbançon avec un CCDI.
La photographie par l'intelligence artificielle, pour vous, quelle réflexion ça vous amène?
Ah, ça c'est une réflexion et c'est une question très intéressante, parce que je trouve que, en tout cas, Je pense que c'est probablement la fin d'un monde photographique, parce que voilà, on peut concevoir des images très rapidement et qui sont magnifiques. Enfin voilà, la question d'une belle image ne se posera plus. Moi, c'est pas du tout un champ sur lequel je travaille. La question de la beauté d'une image m'intéresse assez peu, et que quelque part, ça va probablement être un moment très fort sur la question du sens de la photographie, de sa place. Et quelque part, c'est une manière de consolider la place que moi, j'ai envie de prendre depuis toujours. Donc, pour moi, je pense que ça ne changera pas grand-chose. Mais dans l'histoire de la photographie, ça va changer beaucoup de choses, je crois.
Puis la photographie, c'est quand même un rapport humain.
Bah de fait, pour moi, c'est vraiment l'instrument d'un dialogue. Ouais. Vraiment, tout à fait. Ceux qui font la photographie, c'est autant ceux qui sont des deux côtés des appareils photo, quoi. C'est vraiment la question du dialogue et du regard des uns sur les autres. Voilà, c'est quelque chose qui se joue là beaucoup. Et puis il y a la question de la trace, évidemment, des objets qui restent. Là, on travaille peut-être sur un nouveau projet pour l'année prochaine, ici, dans le Diois. Et on se questionne là-dessus, sur la question de la trace, voilà, de cet objet du temps réel qu'on fixe et qu'on garde. Voilà.
Nadine Barbançon, merci de nous avoir donné un peu de votre temps pour votre exposition Les petites combines de la vie, qui se déroule donc à l'accordéonnerie du Diois du 18 octobre au 17 novembre. Et bonne soirée à vous.
Merci, bonsoir.
Au revoir.
Come on, come on.